Libre comme l'air.
Depuis le 11 septembre 2001, difficile d'ouvrir un journal, d'écouter les informations à la télévision ou à la radio sans entendre prononcer le mot djihad, un mot souvent mal utilisé, mal compris, assimilé à des organisations terroristes dont la plus connue, Al-Qaïda. Jean-Pierre Filu en a fait le cœur de son livre « Les frontières du djihad ». Dans cet essai, il plonge le lecteur aux racines historiques de l'islam, fait le point sur la notion de djihad et développe une analyse de ses frontières. L'auteur est professeur à Sciences Po Paris et titulaire d'une chaire d'islamologie. Nous l'avons rencontré.
En fait, le djihad a des sens divers. Si on revient à la racine arabe, cela signifie l'effort déterminé en vue de réaliser les impératifs de la foi musulmane. C'est donc très ouvert. Et dans le Coran, le djihad apparaît fort peu. La racine même, jahada, n'apparaît que 35 fois. Et généralement dans un sens plutôt pacifique ou dans un sens ouvert, on a de rares mentions de la dimension militaire. Ce qui va faire du djihad l'institution militaire que l'on connaît aujourd'hui, ce ne sont donc pas les textes, mais la pratique de l'islam, et surtout la pratique du prophète, donc les campagnes qu'il mène pendant les dernières années de sa vie, jusqu'à la prise de la Mecque en 630, et donc ayant écrasé les païens dans la ville désormais sainte, son djihad a triomphé, et à ce moment-là, Mahomet fait la distinction entre le grand djihad, qui est le djihad mystique, le djihad contre les mauvaises passions en soi, et le petit djihad, qui est le djihad militaire, qui au fond est le djihad le plus facile des deux. Djihad ne signifie absolument pas guerre sainte, c'est une déformation contemporaine. Ça peut être un sens dérivé parmi d'autres, c'est l'effort déterminé en vue d'un but. Donc c'est l'assistance aux musulmans, l'assistance aux compagnons du prophète qui est un djihad. D'ailleurs aujourd'hui, les principales fondations du régime iranien, qui est une république islamique, sont des djihads. Donc on a le djihad de la reconstruction, le djihad du développement, le djihad de l'éducation. Ce qu'on pourrait qualifier de télévangéliste de l'islam aujourd'hui prône un djihad positif, un djihad social, un djihad caritatif, sans que la dimension militaire figure dans ces différentes acceptions. La réalité, il faut néanmoins le rappeler, c'est que la plupart des djihads qui sont menés au jour d'aujourd'hui au nom de l'islam en terre d'islam sont tout ce qu'il y a de plus militaire, voire agressif, et c'est là où j'établis une distinction entre deux sortes de djihad.
Mais alors à quel moment le djihad devient plus militaire ?
Il est militaire dans la pratique de Mohammed, parce qu'il mène des campagnes. C'est donc non seulement le fondateur d'un État, mais c'est un chef de guerre, un chef militaire, avec une activité très soutenue.
Aujourd'hui, dans quelle mesure le djihad est lié à un groupe terroriste comme Al-Qaïda, par exemple ?
Je crois que le principal apport dont je peux me revendiquer dans ce travail sur le djihad, qui est un sujet qui a été très débattu depuis le 11 septembre, c'est que j'établis la liaison avec le territoire, et en établissant cette liaison, je peux faire une distinction très claire qui s'applique pratiquement partout entre un djihad que je qualifie de national, de défensif, de territorial, qui s'inscrit dans 14 siècles d'histoire de l'islam, et un djihad global, qui est le djihad d'Al-Qaïda, qui est fondamentalement agressif, offensif, terroriste, et qui apparaît depuis fort peu de temps, depuis une dizaine d'années, et qu'on peut qualifier d'enfant de la mondialisation ou de créature de la globalisation, parce qu'il abolit toutes les distinctions géographiques bien sûr, les distinctions de frontières, mais aussi les distinctions entre civils et militaires, qui sont au centre du djihad classique. On ne tue pas les femmes et les enfants, on ménage les hommes de religion, y compris les moines ou les rabbins, et on ne détruit pas impunément et inutilement les cultures ou les biens collectifs. Dans le djihad global, tout cela est balayé et au contraire, on légitime les massacres de civils et les destructions aveugles.
Le sens du titre du livre, Les frontières du djihad, est-ce qu'il existe encore des différents djihads selon certains territoires ?
Il y a à la fois ces djihads nationaux qui se déploient chacun dans leur territoire respectif, et puis il y a ce djihad global qui voudrait abolir les frontières, mais qui, pour se développer, doit rechercher un ancrage territorial et donc entrer en lutte, voire en guerre, avec les différents djihads nationaux. Donc on l'a vu en Afghanistan, dans la lutte entre Massoud et Ben Laden, qui s'est achevée par l'assassinat de Massoud sur les ordres d'Al-Qaïda 2 jours avant le 11 septembre 2001. On l'a vu au Cachemire, on l'a vu en Tchétchénie, on le voit aujourd'hui en Irak, où la guerre est très dure entre les formations nationalistes engagées dans la guérilla anti-américaine et Al-Qaïda qui veut implanter un territoire, ce que j'appelle un djihadistan, sur une portion de l'Irak pour exporter à partir de ce djihadistan sa subversion terroriste.
Le but de votre livre, c'était d'expliquer, de présenter un peu plus clairement cette notion de djihad.
C'est de la présenter plus clairement et puis aussi d'essayer de montrer où sont les menaces. Car plus on amalgame des luttes de nature très diverses, plus on fait le jeu du djihad global et de la subversion terroriste qui n'a aucune base ni sociale, ni territoriale, ni ethnique, ni confessionnelle, mais qui joue de l'amalgame, de l'assimilation pour pouvoir prétendre que son combat est celui des musulmans contre les non-musulmans ou contre les ennemis de l'islam.
Est-ce que la mécompréhension aussi de ces différences, est-ce que ça peut conduire à une assimilation en fait, de l'islam aussi avec une religion de violence ?
Bien sûr, c'est une des conséquences possibles de ce type d'assimilation. Et c'est pourquoi Al-Qaïda en permanence joue sur cette assimilation, parce que pour élargir sa base, pour élargir sa capacité de nuisance, elle a besoin de donner l'impression trompeuse, l'illusion meurtrière, que son combat est effectivement un combat de l'islam, alors que dans les faits et dans les textes, elle trahit tout ce qui fonde l'islam en utilisant les mêmes termes pour leur faire dire ou faire quelque chose de complètement différent, voire totalement opposé. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le thème du djihad est devenu omniprésent, car il y a une frustration immense dans ces sociétés, dans ces pays, qui parfois se traduit sous une forme violente. Ce n'est pas la majorité des cas, mais ces cas où elle se traduit de manière violente contaminent l'ensemble du paysage musulman avec toute cette thématique du choc des civilisations. Si Huntington n'avait pas existé, je crois qu'Al-Qaïda l'aurait inventé, car cette thèse de la confrontation inévitable entre l'islam et le reste du monde est justement le type d'illusion géopolitique tragique qui permet au terrorisme de se développer et surtout de recruter.
Merci à Jean-Pierre Filliu de nous avoir parlé autour de son essai « Les frontières du djihad », un essai disponible aux éditions Fayard.